Amis joueurs, amis joueuses, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est Ludique, l'émission qui fait rimer plaisir, partage et jeux de société. Oui, parce que pendant une heure, eh bien, je vais vous embarquer dans l'univers ludique sous toutes ses formes. Des nouveautés, des jeux pour les enfants, des jeux sortis il y a un an pour voir s'ils sont toujours d'actualité ou pas. Sans oublier des jeux plus anciens qui méritent toujours une place à votre table. Alors à mes côtés, vous le savez, mes trois chroniqueuses, Anne-Gaëlle, Béa et Morgane, pour débattre, tester et vous conseiller. Alors installez-vous confortablement, sortez les dés, mélangez les cartes. Moi c'est Matt et vous écoutez, c'est ludique.
Le week-end, Matt et les filles jouent le jeu Fou Rire. Défis et découvertes, c'est ludique.
Et dans C'est Ludique, pour commencer l'émission, comme d'habitude, on retrouve bien sûr Anne-Gaëlle du compte Instagram Les Chroniques des Meeples. Salut Anne-Gaëlle.
Salut, bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'une expérience. J'ai présenté la semaine dernière le jeu Le Petit Théâtre. Et ce jeu, bien, tu l'as utilisé en classe.
Exactement. Alors, j'ai pas fini parce que forcément, ça, c'est dans le temps, on va dire, souvent quand on fait une séquence. Et en fait, quand on m'a présenté le jeu Le Petit Théâtre à Cannes, j'ai tout de suite pensé comment je pouvais l'utiliser dans ma classe. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis enseignante spécialisée au collège, donc je m'occupe d'enfants de la 6e à la 3e qui ont des besoins éducatifs particuliers, donc je les ai pas en tout temps. Mais souvent, j'essaye de faire des projets un peu dynamiques. Parce que pour eux, l'école, c'est pas toujours évident.
Ouais.
Donc, c'est de mettre en place des choses où on peut travailler des compétences scolaires, parfois un peu déguisées. Et en fait, le jeu est quand même un super outil parce qu'on peut, avec eux, travailler. Ils n'ont pas l'impression de travailler.
Ouais.
Et là, clairement, quand on me l'a présenté, j'ai vu les verbes, les sujets, les compléments, les constructions de phrases. Tout de suite, cette fois, j'ai l'aspect pro qui est arrivé plutôt en tête. Et là, je me suis dit, waouh, trop bien. Parce que c'est pas toujours une notion qui est facile pour les enfants. Surtout moi, mes enfants qui ont un peu de difficultés en lecture, en écriture, etc.
Ouais.
Et je me suis dit, trop bien. En plus, le théâtre, donc j'ai vu plein d'utilisations pédagogiques, donc j'ai commencé à mettre en place une grosse séquence basée sur l'utilisation au départ du jeu, que j'ai détournée. Donc je suis partie vraiment du jeu de base avec cette histoire de théâtre pour justement travailler l'aspect culturel du théâtre. Comment est construit un texte de théâtre. Et je trouve que le jeu est très bien fait pour ça, tu vois, avec le prologue, la présentation des personnages, le narrateur, etc. Donc on est parti vraiment de ce jeu en partie, on a fait la première partie, et après donc je suis partie sur la culture du théâtre. J'ai utilisé le jeu après, surtout pour la composition des phrases, la notion de sujet, de verbe, de complément. Et en fait, on est même allé plus loin en reprenant les phrases du jeu après une partie. Moi, je les ai notées, toutes les phrases qu'on utilisait.
D'accord.
Et on les a réutilisées en français pour faire des phrases complexes, tu vois, en rajoutant des choses. Alors, par exemple, le méchant troll ou le gros méchant troll pousse la petite pierre lourde, tu vois.
Ouais, chose d'accord, comme ça. Vous avez rajouté des choses.
Vraiment, voilà.
Ouais.
Voilà, pour passer de la phrase simple à la phrase complexe. Et j'utilise aussi donc en projet d'écriture, c'est-à-dire que on fait la partie et je demande aux enfants à votre avis qu'est-ce qui va se passer par la suite.
D'accord.
Donc je leur demande d'écrire la suite de l'histoire. Après on joue et on voit ce qui s'est passé. Voilà. Donc je les fais ouvrir aussi les boîtes pour essayer de regarder les futurs personnages qui arrivent et faire travailler leur imagination. Donc c'est en gros de se dire celui personnage là qui arrive, qu'est-ce qu'il pourrait faire, ah il y a telle action, ah ça pourrait faire ça, et donc en fait ils vont essayer de créer la propre suite du jeu.
D'accord.
Avant même de jouer au jeu.
Ok.
Et c'est hyper intéressant comme ils s'attachent au personnage, comme ils essayent de créer, comme parfois ils sont dedans et comme parfois pas du tout, et donc c'est marrant de voir leur réaction. Ils ont hâte de voir la suite pour voir ce qu'ils se sont imaginé, si c'était ça ou pas.
Ouais. Parce que tu leur as fait jouer au jeu, on est sur un jeu coopératif, hein, on rappelle le Petit Théâtre.
Ce qui est donc, super du coup.
Ouais. Et donc du coup, comment ça s'est passé parce que donc ils doivent jouer à tel moment par rapport aux actions qui vont être faites. Par exemple, la reine doit pousser le troll.
Bah c'est ça, c'est vraiment du petit casse-tête. Mais en réalité, je suis partie vraiment de leur expérience de jeu pour ajouter des choses à l'expérience.
Ouais. D'accord.
Et donc, en fait, je les laisse faire. Moi, souvent, je vais plutôt être en regard extérieur ou je vais arriver en mettant un petit coup de pouce parce que c'est pas un jeu si facile. Enfin, nous, on est encore un peu au début. Hein.
Oui,
on est pas sur la fin.
On va dire que le prologue, la première scène et tout, ça va. Après, ça se complique un petit peu.
On pourrait se dire, en voyant la boîte, que c'est vraiment un jeu super simple, très famille. Mais c'est un casse-tête qui est quand même pas si facile. Hein.
Non, non.
Disons qu'en fait, nous, on va, même si l'histoire apporte un peu de l'histoire hein, complètement. Mais on va essayer, avec les enfants, on essaye de l'enrichir petit à petit. Et donc moi, je suis plutôt un regard extérieur, je vais les laisser faire, donner des petits coups de pouce, mais de voir l'interaction qui se crée autour du jeu. Tu vois, vraiment, ils sont autour de la table et moi, je vais plutôt être en retrait. Et je regarde, je note ce qu'ils font, etc. Et après, on réutilise en fait leur expérience de jeu dans le travail. Et je trouve ça hyper intéressant. Et tu vois, je change, j'avais une trame de base de ce que je voulais faire avec eux. Et en fonction de ce qui se passe autour de la table et au fur et à mesure des séances, même si on est encore au début, et ben c'est intéressant de voir comment je peux, en fonction de eux, ce qu'ils vont créer autour de la table, rebondir en me disant « Oh, il a fait ça, c'était hyper intéressant, je vais le réutiliser pour telle chose. »
Ouais.
Et l'idée, donc là, on n'y est pas encore, mais ça va être après, j'aimerais partir de cette scène pour la fin de l'année et faire des petites scénettes.
D'accord, ok.
En lien avec le jeu et ce qu'ils ont vécu comme histoire dans le jeu.
D'accord.
Tu vois vraiment qu'il y a un personnage avec la princesse, voilà, qui est avec la rencontre, tu vois, rejouer la petite rencontre, repartir de ces petites scènes.
Mm-hmm.
Et sachant qu'en plus, la trame du jeu est quand même déjà riche, tu vois, sur ce qu'on peut utiliser.
Oui, oui.
Donc il y a tout à faire, donc ça peut être intéressant. Voilà. Je veux voir, parce que les enfants, de plus en plus, ils me disent « Oh, c'est quand même cool le théâtre, on pourrait faire des trucs ». Et donc voilà, de voir si... là, c'est un petit projet, j'ai envie de dire, de fin d'année, pour voir si après, je le monte pas, tu vois, en base sur une année complète.
Ouais.
Avec des scénettes à jouer et autres.
Comme quoi, on peut jouer et apprendre en même temps.
Exactement, c'est même hyper important. Moi, combien de fois, quand on fait des jeux de société, parce que j'en ai quand même dans ma salle un certain nombre,
bah oui.
On joue, et à la fin, je leur dis, vous avez l'impression de travailler quoi, là? Ils me disent, on a pas travaillé, on a joué.
Ouais.
Bah non, mais en fait, en jouant, t'as appris des choses, qu'est-ce que t'as fait? Bah,
ouais.
Je sais pas. Ah, bah quand j'ai fait ça, j'ai dû expliquer ce que je devais faire, etc. Verbaliser, la verbalisation, c'est hyper important, surtout moi, pour des jeunes qui ont des difficultés un peu sociales, les uns avec les autres. Et donc là, clairement, dans un jeu coopératif comme ça, où, tu vois, il se passe quelque chose et ils doivent forcément parler chacun à sa place. Je trouve ça hyper intéressant.
Ouais. Eh ben super. Merci beaucoup, Angèle. On se retrouve dans un instant pour faire le débrief de la semaine.
Le week-end, Matt et les filles jouent le jeu. Fou rire, défis et découvertes, c'est ludique.
Et c'est ludique, ça continue, bien sûr, Angèle est toujours là.
Mais bien sûr.
Mais voilà, donc on va faire le débrief ensemble des jeux que j'ai présentés cette semaine. Alors on commence avec un jeu qui n'est pas encore sorti, ça s'appelle Ice Split.
Non, je vois la boîte, mais non, j'y ai pas joué. C'est bien ?
Bah ouais, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. C'est okay. Sympa. En plus, ça sent bon le printemps, ça sent bon l'été, puisqu'on parle de glace.
Ah ouais, je parle pas de glace. Bah ça y est, j'ai envie de manger une glace. Bravo.
Voilà. C'est quoi ton parfum préféré ?
En glace ?
Ouais.
Caramel beurre salé.
Ah bah oui, forcément.
Et toi ?
Bah caramel beurre salé également.
Forcément, voilà. Ouais,
forcément.
Voilà,
parce que... enfin, moi je suis en Bretagne, toi t'es en Normandie, je ne comprends pas pourquoi c'est caramel beurre salé. Mais bon après...
Je m'appelle Angèle, je te rappelle que c'est un prénom breton.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, donc j'ai un peu de sang de caramel beurre salé dans les veines.
Oui,
tu vois.
Oui, bien sûr. on continue avec, pareil, on va rester dans les jeux un peu pour l'été, le printemps. Dice Pool Party.
Ouais, moi j'y joue depuis quasiment un an.
Ah, un an ?
Bah ouais. Bah oui, mais j'avais en import.
Ah, mais oui, c'est vrai. C'est vrai.
Vu que je sais pas attendre. et du coup, moi, je trouve ce jeu très, très rigolo.
Ouais.
Parce que tu peux y jouer avec tout le monde. J'aime bien, déjà, de base. Je crois que je ne refuse jamais une partie, tu sais, de. Oh, avec les dés. J'ai pas le nom. Yams, voilà,
oui.
Je ne refuse jamais. Donc là, je trouve ça cool, ce côté un petit peu frénétique. Et donc, on a fait don. On avait notre boîte en import. On l'a donnée à la MJC.
D'accord.
Au travail Sébastien. Et que les jeunes ont déjà poncé toutes les feuilles. Et nous, on a la version gigamique française.
Ah, bah oui.
Et donc voilà, ça fait des heureux partout.
Un jeu aussi, je pense que ça, c'est l'un des cartons du moment, Matchy Matchy.
Ouais, mais ça, je trouve ça trop, trop cool qu'ils reviennent. Parce que de base, c'est Compatibility.
Oui.
Et Compatibility, ça marche depuis des années. Moi, c'est, du coup, Matchy Matchy, c'est ma quatrième boîte du jeu.
De quoi ?
J'ai trois versions de Compatibility.
Ah ouais, d'accord.
Dans le temps. Ouais.
Okay.
Et j'ai la toute première, donc qui est sortie il y a déjà de nombreuses années.
Ouais.
Et alors, c'est trop rigolo de voir l'évolution des images. Nous, de temps en temps, on joue au premier Matchy Matchy. C'est plus resté pour le souvenir et la collection parce que c'est un de mes premiers jeux.
Ouais.
Je l'avais même avant de découvrir vraiment ce que c'était que le jeu de société. Tu vois, c'était à l'image, c'était à côté de mon Pictionary et mon Milburn, tu vois.
D'accord, ok.
Compatibility, donc je le connais depuis des années et des fois on joue avec la première version avec les images vraiment dans leur jus et c'est très drôle, donc là je suis trop contente de voir Matchy Matchy parce que Compatibility c'était un vrai marché noir je dirais ce jeu, parce qu'il était vendu une fortune et je trouvais ça tellement dommage parce que c'est un jeu qui est trop chouette, qui est fédérateur, tu joues avec n'importe qui, moi j'ai joué avec mes collègues qui m'ont dit oh, non le jeu de société c'est pas pour moi, ils nous ont vu rigoler, ils se sont approchés, on peut faire la prochaine, Et finalement, dans la salle des profs, il y avait tout le monde qui était en train de... Non, mais n'importe quoi ! Ouais. Quand on me dit ça, tu mets pas ça ! Et ça, je trouve ça trop cool.
Bon, est-ce que t'es compatibilité, du coup, matchy-matchy avec, avec ton mari ?
Ah oui, il faut pas qu'on joue ensemble.
Ah non, t'es pas compatibilité, alors ?
Ah non, il faut pas qu'on joue ensemble, sinon on tue tout le monde en...
Ah oui, d'accord, ok. Okay,
on est vraiment en symbiose sur le choix de nos cartes, et en plus, on joue ensemble depuis... quasiment 16 ans à ce jeu.
Ouais, donc c'est bon, là je pense que...
Donc il faut plus qu'on joue ensemble.
Donc, voilà. Qu'on joue ensemble. On continue avec un tout petit jeu de cartes, Colette.
Ouais, et ben moi j'aime bien les petits formats comme ça. Je trouve que ça, tu vois, moi ça sent bon l'été.
Ouais.
C'est les petits formats de boîte que tu vas pouvoir emmener facilement un peu partout, glisser dans ton sac. Et moi j'aime bien la DA, j'ai des gens qui
les cartes terribles. Folle, là moi, c'est sympa ça, mais oui.
Ouais, donc voilà.
Alors, continue avec, alors attention, c'est une avant-première, puisque le jeu ne sortira qu'au mois de juin, mais on a eu la chance de l'avoir à Cannes, et puis on veut vous en parler, parce que forcément, ça va faire parler dès que ça va sortir, donc c'est une avant-première, c'est Bunny Kingdom Town.
Oui ! D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai menacé Mathieu de me donner sa boîte.
C'est vrai.
Dans Cannes, devant témoin.
Ouais.
Je voulais avouer mes péchés à tout le monde. Et c'est bon, je n'ai pas quitté l'émission, puisque j'ai pu aussi jouer à Bunny Kingdom Town.
Oui, parce que rappelle ce que tu m'as dit à Cannes, à un moment.
J'ai dit à Mathieu que s'il ne m'offrait pas gentiment sa boîte, je ne ferais plus partie de l'émission.
Voilà. Et heureusement...
Voilà, vous voyez à quoi vous êtes réduit. Hein, je vous réduis à une boîte de Bunny Kingdom.
Et heureusement...
Non, mais j'y ai joué.
Et heureusement, tu as eu ta boîte aussi, donc tout s'est bien passé.
Je suis encore là, du coup, pour vous en parler.
Donc voilà. Donc, alors, qu'est-ce que tu en as pensé de Bunny Kingdom Town ?
Alors, j'ai trouvé ça très chouette. Alors, il y a la thématique de Bunny Kingdom, mais ça va être des mécaniques et des réflexions différentes par rapport à
Totalement.
Bunny Kingdom.
Ouais.
C'est pas le même jeu. Voilà, on peut pas dire que c'est une version duel de Bunny Kingdom.
D'ailleurs, ça s'appelle pas duel. Ça s'appelle pas duel.
Non, non, mais c'est pour que tu vois, les gens pourraient se dire justement que c'est une version de Bunny Kingdom à deux, mais non,
ouais,
Bunny Kingdom
pas
de toute façon.
Ouais.
Fonctionnait à deux, donc il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Non, c'est vraiment un autre jeu, et je trouve que le jeu est très agréable. Je trouve que les illustrations sont très belles. Le jeu est de bonne faction. Enfin, vraiment, j'ai passé un bon moment. Après, Bunny Kingdom restera toujours mon...
Ta référence, bah oui.
Ma référence dans mes jeux de... Je crois qu'il est dans mon top 5, si je reprenais mon top, je ne sais
Oula,
plus exactement,
ouais,
mais j'en suis quasiment certaine.
Très haut, très haut.
Mais c'est un très... très bon jeu, chouette jeu qui prend moins de place aussi autour de la table.
C'est sûr.
Et je trouve qu'il y a des très bonnes sensations. Non, j'aime bien. J'en ai fait là, on a fait 5 petites parties. J'ai quand même envie d'y revenir, donc c'est quand même bon signe.
Voilà, donc ça, c'est une avant-première hein, puisque ça sort que début juin, donc d'ici un mois à peu près. Voilà. Et ben, c'est là-dessus que se termine notre entrevue, Angèle.
Et très exactement, oui. J'ai passé un agréable moment en ta compagnie, Mathieu. Je suis ravie d'être restée dans l'émission.
Eh ben, moi aussi, je suis ravie que tu sois restée. Je crois que j'aurais dû te donner ma boîte, hein, sinon, je pense. Hein, sinon,
Non, mais je ne l'aurais pas vraiment fait, je vous rassure.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine, puisque Angèle sera avec nous, puisqu'elle a eu sa boîte de Bunny Kingdom. Salut.
À la semaine prochaine, salut.
C'est Ludique, le plaisir de jouer à la radio.
Et dans C'est Ludique, c'est le moment de retrouver Béa du magasin Terre de Jeux à Nantes. Salut Béa.
Salut Matt, coucou tout le monde, comment vas-tu?
Bah ça va bien et toi?
Bah écoute, parfait, je suis en vacances, pas demander de plus.
Ah bah voilà, les vacances c'est important. Hein.
Totalement, totalement, tu ne me contrediras pas, n'est-ce pas?
Non, et t'as le temps de jouer pendant les vacances du coup ou pas?
Bah écoute, on a loué un gîte avec les copains, on est 8, donc t'imagines bien que oui, on a plus de sacs de jeux que d'affaires personnelles.
D'accord, ok, et vous jouez à quoi principalement?
Écoute, là j'ai pu tester Unsettle que j'ai trouvé absolument génial et j'ai beaucoup aimé aussi Doxa. En fait, ça va alterner entre gros jeux et petits jeux.
D'accord, ok. Mais là, on va revenir sur des jeux que j'ai présentés il y a un an, savoir s'ils sont toujours dans ta ludothèque, si on y rejoue ou pas. Et on commence avec Kelp.
Alors, Kelp, c'est un jeu de joueurs de Carl Robinson, magnifiquement illustré par Weberson Santiago, et c'est chez Wonderbow Game. Donc, Kelp, on est sur un jeu de joueurs dans lequel un joueur va incarner le poulpe, la pieuvre, et l'autre va incarner le requin. nous sommes sur un jeu asymétrique puisqu'effectivement chaque joueur va avoir une mécanique qui lui est propre. Il y en a un, donc le but du requin va être d'essayer, grâce à des placements judicieux de dés, de démasquer la pieuvre. Et la pieuvre, elle, son but va être d'essayer d'aller se cacher pour ne pas se faire manger. Le requin gagne s'il arrive à manger la pieuvre, et la pieuvre gagne si elle se cache jusqu'à ce que le requin soit épuisé. Donc c'est vraiment un jeu complètement asymétrique. Il y en a un qui va jouer sur du draft de dés, du combo, un peu de back building, ouais. Et l'autre qui va jouer vraiment sur de la déduction. Donc c'est un jeu qui est hyper intéressant, mais surtout ce qu'on peut relever, c'est le matériel qui est assez oufissime, puisqu'on a Robertson Santiago, je pense qu'il n'y a rien à dire. Mais aussi nous avons les pions en back elite dans lequel, derrière lequel va se cacher la pieuvre, qui est vraiment très très chouette. Donc vraiment très très bon jeu.
Plus facile le requin, plus facile la pieuvre.
C'est différent. Moi, je vais avoir tendance à jouer, à préférer jouer le requin, que je trouve. Alors certes, plus facile, mais surtout parce que j'aime pas du tout la sensation de trac que m'apporte le fait de la pieuvre. Mais ça, c'est totalement personnel, quoi.
Ouais. Deuxième jeu, alors rien à voir, c'est un jeu d'ambiance, s'appelle One Round.
Effectivement. One Round a créé un petit peu la surprise l'année dernière. Donc, c'est un jeu de Tobias César et qui est édité chez Schmitt, pardon. Et on est sur un jeu coopératif d'association d'idées. Et en fait, effectivement, la couverture n'est pas forcément la plus attrayante, mais c'est un jeu qui a effectivement bien marché, qui a surpris les gens, puisque on ne s'y attendait pas du tout. Il était un petit peu passé inaperçu. Et en fait, au fil du temps, les gens l'ont essayé. Il a pas mal marché. Et effectivement, en boutique, il est toujours présent. Donc, One Round, comme je le disais, on est sur un jeu d'association d'idées. L'idée, c'est que de base, vous allez avoir trois sortes de languettes avec des numéros. Un joueur va piocher un numéro. Par exemple, si vous avez si à 44, vous avez sandwich, à 50, vous avez bœuf, et à, 60, vous avez, Italie, et que vous piochez le 46, il faut trouver un mot qui va avec sandwich et bœuf, on peut dire burger, par exemple. On va écrire burger, et les autres joueurs doivent trouver son bon positionnement. Alors, c'est facile quand il y en a peu, mais par contre, quand on commence à en avoir beaucoup, puisqu'effectivement, le but étant de mettre les 100 cartes, là, ça devient un petit peu plus complexe. Ouais. C'est un jeu qui est plutôt très intéressant pour ceux qui aiment ce type de jeu-là.
Ok, et on va finir avec Opération Zèbre, qui est l'un de mes jeux d'ambiance préférés de l'année dernière.
Mais de toute façon, Opération Zèbre, il a marqué l'année puisqu'il est encore dans les boutiques et il est encore très bien vendu. Il est même réclamé. Donc, c'est vraiment un jeu qui a marqué l'année dernière. Donc, Opération Zèbre, on va être sur un jeu de culture générale un petit peu particulier. L'idée, c'est qu'il peut être joué soit en compète, soit en coopératif. Et en gros, on va avoir une carte. Et cette carte, elle va définir donc un pays, une chanson, un film, peu importe, avec des lignes. Et en fait, le joueur, le narrateur, celui qui va avoir la carte, il va caviarder. Alors, caviarder, ça veut dire qu'on va prendre son feutre et qu'on va barrer des phrases, qui ne seront plus lisibles. Et en fait, chaque phrase, en fonction de l'information, de l'importance de l'information qu'elle apporte, va valoir un certain nombre de points. Et quand on joue en coopératif, par exemple, il va falloir essayer de faire deviner le mot en ayant le moins de points possible. Donc, en caviardant les phrases les plus intéressantes. Effectivement, à chaque fois qu'on va laisser par exemple une phrase à deux points, on va cocher deux cercles. Il va falloir faire deviner un certain nombre de mots en ayant encore des cercles. Donc c'est très intéressant, c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore vraiment vu. Et je trouve que ça a remis au goût du jour. Il y a beaucoup de jeux de culture générale, les plus marquants sont les TTMC. Et du coup, ça a apporté une nouvelle proposition et c'est très cool. On peut noter qu'il y a deux extensions qui sont sorties, qui sont cuisine et BD.
Et alors, maintenant, on va faire le point, savoir s'ils sont toujours dans ta ludothèque, s'ils se rejouent ou pas, s'ils sont toujours en boutique. Tu vas nous dire tout ça. On commence avec Kelp.
Alors, Kelp, non, il n'est pas dans ma ludothèque parce que, comme je l'ai dit, moi, la déduction et les jeux track, c'est pas vraiment ma cam.
Ouais.
Donc, non, il n'est pas dans ma ludothèque. Pourquoi pas refaire une partie? Et il a marché à ses débuts de par la beauté, mais malheureusement, actuellement, les ventes sont en baisse.
One Round,
oui, pareil, pas ma cam, donc il n'est pas dans ma ludo, mais refaire une partie avec plaisir, et oui, il est toujours en boutique.
Et puis je crois que tu as son petit frère ou sa petite sœur qui est...
Oui,
et
One Mind, qui vient de sortir il y a à peu près 15 jours, 3 semaines.
Et Opération Zèbre?
Alors, Opération Zèbre, pareil, pas ma cam, donc pas dans ma ludo. Pour le coup, j'ai pas forcément envie d'en faire une partie, parce que vraiment, moi, la culture générale, je suis une quiche, je suis brêle, donc je me sens inutile, donc vraiment pas pour moi. Par contre, effectivement, c'est un jeu qui est toujours très bien vendu, qui est même réclamé par les clients, donc vraiment top.
Eh ben, merci beaucoup, Béa.
Mais je t'en prie, Matt. Je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Salut.
Salut, salut tout le monde.
C'est ludique, le plaisir de jouer à la radio.
Et dans C'est ludique, maintenant, je voulais vous parler d'un petit jeu. On va taper dans la piñata, mais surtout dans le bluff, avec le jeu du dos Amigo de Sophie Plancher et Thomas Plancher, illustré par Christopher Matt et édité par Victoire Édition pour 3 à 8 joueurs. Alors, le principe, vous avez une piñata remplie de bonbons, enfin, des cartes qui sont posées sur la table avec des bonbons. Sauf que vous ne savez pas exactement ce qu'il y a dedans. Vous allez donc récupérer des cartes secrètes, échanger avec votre coéquipier, puis bluffer. Chaque joueur pioche des cartes dans la piñata, il y en a autant que le nombre de joueurs x 2. Le dos des cartes va vous donner des indices, mais jamais totalement fiable. Donc dès le début, tu sais des choses, mais pas tout. Une carte moitié bleue et jaune veut dire qu'il y a des bonbons bleus et ou jaunes, mais aussi peut-être rien du tout. Alors vous allez vous demander comment on joue. Eh bien c'est simple, à votre tour, on annonce, je pense qu'il y a 3 chihuahuas, ce sont les bonbons jaunes. Le joueur suivant doit lui monter l'enchère. Il peut dire, bah non, moi je pense qu'il y en a 4, mais aussi changer de bonbons. Non, je pense qu'il y en a 6 crocodiles. Ou balancer du dos Amigo. Quand quelqu'un dit du dos Amigo, eh ben, on va révéler les cartes. Et là, on va se mettre à compter. Si l'annonce était vraie, bien joué, on va récupérer une carte score. C'était du bluff, ça pique. Le twist du jeu, c'est que tu joues en équipe. Tu joues avec un partenaire, mais tu ne sais pas exactement ce qu'il a. Donc, tu lui fais confiance. Tu le regardes, c'est ça, en mode, tu mens là ou tu mens pas? En tout cas, les manches s'enchaînent avec des scores qui vont monter, 10, 20, 30. Une première équipe à 100 points, c'est la victoire. Alors pourquoi ça marche du dos Amigo? Parce que c'est ultra rapide, c'est hyper accessible. Et puis vous allez faire des débats autour de la table. Mais si je te jure que là, il y en a 7 ou 8. C'est 7 ou c'est 8. Bref, du bluff, de la mauvaise foi assumée. C'est parfait pour lancer une soirée entre amis. Si vous aimez le Perudo, laissez-vous tenter par du dos Amigo. Allez, dans quelques instants, on va retrouver Morgane du Carnet des Geekeries. Elle va revenir sur des jeux un petit peu plus anciens qu'elle a retrouvés au cœur de la ludothèque.
C'est ludique, le rendez-vous des joueurs et joueuses du week-end.
Et dans C'est ludique, c'est le moment de retrouver Morgane du Carnet des Geekeries. Salut Morgane.
Salut.
Alors, aujourd'hui, on va parler d'un jeu un petit peu plus ancien que d'habitude.
Oui, alors même deux jeux un peu plus anciens du coup. Alors, on va commencer avec Iron Sand, c'est un jeu de Kevin Riley qui est illustré par Gong Studio. C'est sorti chez Matago, alors aujourd'hui c'est Colossal Games qui a repris l'édition du jeu pour le marché français.
Ouais.
Mais il existe toujours, il est toujours disponible. Iron Sand, c'est un jeu de cartes coopératif où on va devoir en fait protéger Grévold des envahisseurs. Donc on va affronter pour ça des Némésis, les grands méchants, grâce à des sorts et des capacités qu'on va retrouver dans notre deck de cartes qui va s'améliorer en fait petit à petit. Au fil de la partie, le but du jeu, c'est donc d'arriver à vaincre la Némésis avant que les joueurs ne soient tous épuisés ou que Grévold, donc c'est notre père, n'ait plus aucun point de vie. Pendant la partie, on va avoir un paquet de cartes en fait qui va permettre d'indiquer l'ordre du tour, en sachant que pour une partie à 4 joueurs, chaque joueur va jouer une seule fois et la Némésis s'activera 2 fois. Donc en fait, à chaque tour, le paquet de cartes va être remélangé, donc l'ordre du tour sera toujours différent. On ne sait jamais, c'est pas un tour horaire normal où tout le monde joue l'un après l'autre. À son tour, un joueur va commencer par lancer les sorts si certains sont déjà prêts. Il va utiliser ensuite les 5 cartes de sa main pour préparer justement d'autres sorts, pour acquérir des nouvelles cartes qui vont aller, qui seront dans un marché central commun à tous les joueurs. Et en fait, c'est comme ça qu'on va avoir plus de gemmes qui vont nous aider à payer des nouvelles cartes, on va avoir des nouveaux sorts, on va pouvoir avoir des reliques, toujours dans l'idée en fait d'améliorer nos cartes pour vaincre plus vite la Némésis.
Ouais.
La particularité de ce deck building, c'est qu'on ne défausse, notre défausse ne sera jamais mélangée. Donc en fait, il faudra à chaque tour placer les cartes utilisées et achetées de façon cohérente pour qu'elles ressortent plus tard dans l'idéal comme on le veut en fait, pour essayer de faire un peu des combos. Donc ça permettra de programmer nos tours pour aussi être toujours plus puissants. Et en fait, pour lancer des sorts sur la Némésis ou sur les ennemis qui vont arriver petit à petit, on va manipuler des brèches. Donc, c'est des cartes qui sont devant nous, mais au début, elles sont fermées. Enfin, on en a une ouverte et les autres sont fermées. Et en fait, tant qu'elles sont ouvertes, les sorts vont partir immédiatement au tour d'après. Par contre, si après, on a des brèches fermées, ça va protéger en fait nos sorts et puis on va pouvoir les programmer pour plus tard et les garder devant nous tant qu'on n'a pas envie de les utiliser directement.
D'accord.
Les tours vont s'enchaîner comme ça en alternant à la fois les joueurs et la Némésis. Et en fait, la Némésis, quand elle attaque, autant vous dire qu'elle attaque très fort, hein, elle peut faire très très mal d'un coup. Elle peut défausser des sorts préparés, elle peut nous faire perdre de nombreux points de santé et ramener plein de petits ennemis qui ne seront pas si évidents que ça à battre, surtout que bien souvent leurs effets sont récurrents tant qu'ils n'auront pas été détruits. Donc on a certains effets qui sont immédiats, d'autres qui vont nous laisser un ou deux tours de répit, mais vraiment pas grand chose quoi. Donc on sait que ça va rapidement arriver. Notre victoire elle sera là dès que la Némésis sera vaincue. C'est pas du tout facile de gagner à ce jeu, mais c'est aussi ce qui fait la force de ce jeu. En fait, on est sous pression à chaque attaque de la Némésis sans réellement savoir si on va réussir à s'en sortir un ou deux tours de plus. Des fois, on sait rapidement que la fin est proche et qu'on est très très mal parti, donc voilà, ouais. On sait qu'il faudra faire mieux. Mais on a un univers qui est assez immersif, on a des personnages qui ont des capacités spéciales aussi, et en fait, ça permet de rendre chaque joueur unique et utile dans la partie. Donc c'est idéal pour un coopératif du genre où vraiment on a besoin de communiquer et de s'entendre pour faire les actions au bon moment. Dans la boîte de base, on a plusieurs Némésis qui sont totalement différentes, donc ça permet de bien renouveler les parties, parce qu'on sait qu'on va jouer différemment nos decks, qu'on va choisir d'autres cartes aussi sur le marché selon les pouvoirs de chacun. Donc c'est vraiment bien pensé, et en fait, malgré la difficulté pour gagner, on a des règles qui sont hyper accessibles. Donc une fois qu'on joue, c'est vraiment fluide, on ressent vraiment la coopération, l'importance de la communication et l'esprit d'équipe, en fait, pour arriver à mettre tous nos pouvoirs, toutes nos cartes en commun pour réussir. Si vraiment vous appréciez le jeu de base, il y a de nombreuses extensions qui existent déjà.
Ouais, c'est ça, il y a beaucoup.
Ouais, il y a beaucoup d'extensions. Alors, c'est soit des nouvelles cartes, soit des nouvelles Némésis. Et il y a aussi une version Legacy. Moi, j'ai eu la possibilité de la faire. Ouais. Et j'avoue que c'était un des meilleurs Legacy que j'ai fait de ma vie.
D'accord.
Je pense j'en ai déjà fait quelques-uns. Mais vraiment, là, on voit son personnage évoluer. On a des nouvelles capacités. On a la complexité des Némésis aussi qui augmente petit à petit. Et vraiment, ça a été le meilleur Legacy, je pense, que j'ai fait. Ouais.
Ok. Bah tu sais quoi, moi je n'y ai jamais joué.
Eh ben ne dis jamais ça à Thierry parce que je crois que c'est son jeu préféré.
C'est pas vrai. Alors peut-être aussi c'est parce que je suis pas très jeu coopératif.
Peut-être.
Donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais ouais c'est vrai que c'est un jeu que je n'ai jamais joué.
Moi c'était visuellement, tu vois, c'était pas du tout un univers qui m'attirait.
Ouais et en plus, oui, alors déjà je suis pas coopératif et visuellement ça m'attire pas non plus.
Ah ouais, c'est vraiment, faut aimer quoi, mais du coup j'y suis allé et c'est vrai que c'est vraiment hyper agréable, enfin c'est très rare qu'on ressente autant la coopération dans un jeu et là il y a vraiment besoin en fait, de programmer les actions des uns et des autres quoi.
Bon bah ça m'a peut-être donné envie alors tout ça.
Voilà.
Peut-être à tester du coup. Tu voulais me parler d'un autre jeu un petit peu plus ancien encore?
Oui, bien plus ancien, donc on sort de l'univers post-apocalyptique, du coup on va aller du côté des robots. Ricochet Robot, c'est un jeu que je vais essayer en vrai depuis très très longtemps.
Ouais.
C'est un jeu d'Alex Randolph qui est illustré par Franz Wohinkel et ça date de 1999.
Donc, ah oui, quand même.
Pas du tout récent, mais c'est encore trouvable aujourd'hui, c'est édité en France chez Oya. On est sur un véritable jeu de casse-tête et de réflexion puisque l'objectif c'est d'aider en fait les robots à atteindre leur destination. Donc pour ça on a un grand plateau central, on a plusieurs robots colorés et des cases colorées aussi qui contiendront des symboles spécifiques. Et en fait à chaque tour on va révéler un jeton objectif et ça contiendra un des symboles du plateau. Donc là simultanément tous les joueurs vont devoir trouver le chemin le plus court entre le robot et le robot de la couleur correspondante au symbole pour qu'il puisse y arriver. Donc si par exemple le jeton objectif c'est une planète bleue, je sais que je devrais trouver le chemin le plus court pour que mon robot bleu il aille sur sa planète. Les robots ils se déplacent qu'en ligne droite et ils peuvent ricocher et donc tourner uniquement s'ils rencontrent un obstacle, donc que ce soit un mur ou un autre robot. Donc là on déclenche le sablier, les joueurs vont réfléchir et vont annoncer en combien de coups ils pensent pouvoir amener le robot à sa destination finale. À la fin du sablier, le joueur qui a dit le chiffre le plus bas donne sa solution. Si c'est bon, il remporte le jeton objectif de la manche en cours. On est vraiment sur un pur jeu de déduction et logique. Hein. On a des règles très très simples, mais on a un cerveau qui rentre hyper vite en ébullition. Surtout quand on sait que les autres robots, donc des autres couleurs qui sont sur le plateau, ils peuvent aussi être déplacés et compter dans le nombre de déplacements. Et en fait, ils vont permettre de créer des obstacles qui vont permettre d'atteindre plus vite la destination finale. Donc on a à la fois un côté course contre la montre, un côté réflexion qui s'emboîte bien ensemble. Et en fait, quand vous entendez un joueur qui dit qu'il a un chemin en 5 coups et que vous êtes encore à 7 ou 8, Vous savez qu'il y a mieux, donc vous cherchez pour avoir une meilleure solution.
Ouais.
Et en fait, on va enchaîner les objectifs comme ça jusqu'à ce qu'un joueur en gagne 5 jetons objectifs. Moi, clairement, mon cerveau, il n'est pas forcément calibré pour ce genre de jeu. Hein. J'ai eu quelques jetons quand même, j'ai réussi à en avoir quelques-uns. Mais j'ai du mal à me dire que j'ai le droit de déplacer les autres robots pour créer des obstacles.
Ouais,
donc forcément, ça aide pas. Mais voilà, ça n'empêche pas le plaisir d'y jouer. Enfin, j'ai découvert le jeu en vrai, j'avais beaucoup joué pendant le confinement parce qu'il y avait des copains sur les réseaux sociaux qui mettaient des énigmes. Justement, enfin, le plateau central et qui nous mettait un jeton. Donc, j'ai beaucoup joué comme ça, mais c'est vrai qu'en vrai, c'est plus agréable et puis on y a joué beaucoup parce qu'il n'y a pas de nombre limite de joueurs. Mmh. Mais voilà, si vraiment vous aimez les jeux de déduction du genre, ça peut très vite devenir addictif par contre.
Ok, bon, je ne connaissais pas non plus ce jeu. Faut dire que je n'ai jamais présenté des jeux Oya, donc
je savais même pas qu'il était encore édité. Hein. J'ai regardé parce que pour moi, c'était vraiment un vieux jeu, quoi. Et je me suis dit, en fait, il existe encore, il est encore trouvable. Donc,
Voilà. Bon, et voilà donc deux découvertes que vous pouvez retrouver en boutique. Alors, on est d'accord, hein, pas dans toutes les boutiques, parce que ça sera peut-être plus compliqué. Merci beaucoup, Morgane.
Avec plaisir.
Encore deux nouvelles petites pépites que tu nous as fait découvrir aujourd'hui. Et donc, à la semaine prochaine.
Ça marche, avec plaisir.
Salut.
Salut.
Et voilà les amis, c'est Ludique, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr dès lundi pour Un jour un jeu et samedi pour la grande émission. En attendant, jouez bien.